Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Hier, mardi 27 juin, le Comité national d'éthique a donné un avis favorable à l'accès à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux célibataires, prenant acte, je cite, de nouvelles façons de donner vie à des enfants. Un thème auquel ne vont certainement pas manquer de réagir quelques-uns des invités des 10e universités d'été de Castanet-Tolosan qui s'ouvrent demain. Le thème de cette année, construire l'avenir dès maintenant, une manière de nous aider à rentrer dans notre époque, à faire face à ses ombres, mais aussi et surtout à en voir toutes les beautés. Cette émission Vivante Église ce matin, donc l'Université chrétienne d'été de Castanet rêve d'un autre avenir avec autour du plateau frère Jean-Marc Guéraud. Vous êtes dominicain et vous êtes le président de l'association des universités d'été, l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan. Bonjour.
Bonjour.
Au téléphone avec nous ce début d'émission, Anne Ponce, directrice de la rédaction du journal Pèlerin, qui sera présente à ces universités. Bonjour.
Bonjour.
Et un peu plus tard, nous rejoindrons Vincent Grégoire Delory, qui est directeur de l'École supérieure d'éthique des sciences ici à l'Institut catholique de Toulouse, Raphaël Marcelon, qui est fondateur de la ferme Habitat Solidaire, et Mgr Bernard Rousset, évêque émérite de La Rochelle, tous intervenants de cette université chrétienne de Castanet-Tolosan. On va commencer avec vous, frère Jean-Marc Guéraud. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une présentation, une baseline, comme on dit, pour ceux qui ne connaissent pas ces universités et qui seraient à l'autre bout de la région, qui ne seraient pas près de Castanet-Tolosan?
Oui, l'université d'été est née il y a 10 ans de la rencontre avec plusieurs baptisés et d'autres personnes qui ont exprimé la nécessité de réfléchir ensemble sur des sujets de société en lien avec la foi chrétienne. Et c'est dans ce cadre-là que sont nées ces universités d'été qui permettent, pendant 3 jours, de réfléchir sur un sujet particulier qui est choisi suivant l'insistance du moment, suivant un petit peu l'air du temps.
C'est-à-dire qu'au départ, c'est vos paroissiens, parce que vous étiez curé de Castanet-Tolosan, ouais, qui vous ont dit « on aimerait avoir les moyens de réfléchir davantage », c'est
oui,
ça?
Oui, c'est né d'une réflexion commune dans ce sens, oui.
D'accord. Voilà. Donc ouais, c'était au niveau paroissial, d'une certaine
oui,
manière.
Oui, mais alors précisément pour un petit peu élargir l'espace paroissial, pour créer une interface avec les réflexions du monde présent, qui ne sont pas a priori nécessairement d'inspiration chrétienne, et pourtant qui rejoignent d'une manière ou d'une autre, une préoccupation chrétienne.
Donc le thème que vous avez choisi, on y reviendra largement pendant cette émission, ça s'appelle « Construire l'avenir dès maintenant ». Est-ce que vous pouvez nous dire quelques-uns des thèmes qui ont été ceux des années précédentes et puis les réflexions saillantes peut-être?
Oui, bien sûr. Ah oui, en général, les réflexions sont des réflexions qui précisément sont d'un intérêt commun. Par exemple, même si au début c'était plus tourné vers les questions de vie d'église, par exemple « Le monde change, l'église se renouvelle en 2010 », Les chrétiens et la fin du monde en 2012. Mais assez vite, on s'est orienté vers des sujets qui sont des sujets de société. La question des autres, la question des médias, des rencontres humaines, la question du vivre ensemble, la question de la relation humaine à l'épreuve. Vous voyez, les sujets ont évolué dans un sens beaucoup plus sociétal.
Voilà, il faut dire aussi que vous êtes dominicain, donc vous êtes peut-être particulièrement attentif.
Ah oui, alors par
à
vocation,
de...
s'il est un aspect central dans la vocation dominicaine, c'est bien de réfléchir le mystère de la foi dans l'espace humain et culturel qui est le nôtre aujourd'hui.
Alors, le thème de cette année, donc je l'ai dit, construire l'avenir dès maintenant, c'est un beau thème, mais c'est un thème, on va dire, large et qui peut paraître un peu vague ou embrassé très largement. Comment est-ce que vous préciseriez ce thème? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était votre intention, votre idée derrière ce...
Alors, le thème est large en lui-même, même si les conférences vont le préciser chacune dans son domaine. Cela dit, et en même temps, il correspond à une préoccupation centrale, à savoir que nous sommes à la croisée des chemins. Il y a de grandes inquiétudes quant à l'avenir et on a des peurs dans la mesure où on sent bien qu'on ne maîtrise pas le sujet. Et pour cause, personne ne maîtrise l'avenir, mais c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs.
Et pourquoi est-ce qu'on serait particulièrement à la croisée des chemins? Est-ce que vous voulez citer exemples?
Oui, on est à la croisée des chemins parce que le mythe du progrès a fait long feu. aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a tellement d'innovations technologiques, biotechnologiques, dans l'ordre humain, dans l'ordre de la société, dans l'ordre personnel, dans l'ordre de l'anthropologie, qui font qu'aujourd'hui, on se dit, où va-t-on ? Et jusqu'où peut-on aller ? Et jusqu'où la question humaine est-elle en question, précisément ?
Voilà, donc c'est d'abord pour ça que vous êtes...
Voilà, que ce sujet, me semble-t-il, est au cœur de nos préoccupations et de manière vitale.
Alors, de fait, il y a un certain nombre de conférences, entre autres le Vivant 3.0, donc avec Vincent Grégoire Delory, que j'ai cité tout à l'heure, ou le Père Tanguy-Marie Pouliquen, qui est plus connu de nos auditeurs, Quel épanouissement pour l'homme ? On sait que c'est un spécialiste de ces questions, on va dire anthropologie chrétienne, transhumanisme, etc. Et donc, vous vous intervenez sur l'être humain et son histoire. Alors, c'est pareil, le thème est large. Oui. Bon courage, mais qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous allez introduire cette session qui commence donc demain ?
Et non, en deux mots, je voudrais essayer de resituer le rapport au temps de l'être humain dans la perspective chrétienne, qui confesse que les temps sont accomplis. Accomplis, ça ne veut pas dire achevés. Les temps sont accomplis, c'est-à-dire que nous avons, le Christ est ressuscité, et nous pouvons vivre dès à présent, d'une manière ou d'une autre, des biens de la vie de Dieu, des biens du royaume de Dieu. Et cependant, nous sommes dans un cheminement qui est aussi éprouvant. Donc je vais essayer de resituer de manière positive le rapport au temps et en particulier de montrer qu'il est bon que le temps passe, alors qu'aujourd'hui, il est bon de se donner du temps, alors qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à penser qu'il nous faudrait un petit peu tout de suite, qu'on est dans le mythe de la jeunesse éternelle, que vieillir et que laisser le temps passer n'est pas une bonne chose. Or précisément, je crois qu'il faudrait peut-être un petit peu avoir une autre approche du rapport au temps, ce qu'une réflexion sur les accomplissements chrétiens peut essayer de nous aider à avoir.
Et vous pensez que ce rapport au temps, que différent que les chrétiens... Anne-Ponce, je ne vous oublie pas, hein, rassurez-vous, je vais vous interroger dans un instant. Vous pensez que ce rapport au temps que les chrétiens ont, qui serait donc radicalement différent à vous entendre, puisque d'une certaine manière, c'est comme s'ils étaient déjà entrés dans l'éternité, donc ils ont peut-être plus de confiance ou ils ont peut-être plus le loisir de se donner du temps.
Oui.
Ça change, du coup, la possibilité de construire un avenir différent ? Et si oui, pourquoi, en fait ?
Ah oui, oui, je crois. Parce que si jamais nous pensons que nous sommes promis de manière certaine dans la foi à un avenir heureux, à un avenir accompli, et qu'en même temps, ça ne peut pas être uniquement le fait de nos propres forces humaines, mais que nous recevons cela fondamentalement comme un don de Dieu, c'est vraiment une autre approche qu'une approche purement technocratique, si je puis dire, ou purement volontariste, qui est celle de notre temps aujourd'hui, dans l'émergence de ce devenir.
Anne Ponce, je rappelle, vous êtes directrice de la rédaction de Pèlerin, qui est donc le principal hebdomadaire chrétien en France. Je vous demanderai peut-être d'en parler un peu plus tard. Est-ce que vous avez une première réaction à ce que vient de dire le frère Jean-Marc Guéraud à propos de ce rapport au temps ? Est-ce que ça vous inspire ?
Bah écoutez, ce qui m'inspire surtout, c'est de participer à ces journées. Effectivement, la façon dont il a présenté ces journées me stimule encore plus pour venir y participer. Donc je suis vraiment très heureuse de m'inscrire dans ce programme. Avec, voilà, pour ma part, je vais humblement proposer un apport à partir de mon expérience, voilà, de mon expérience de journaliste. Vous savez qu'on dit parfois que la principale qualité des journalistes, c'est la curiosité. Donc effectivement, moi j'ai cette curiosité de l'actualité et aussi plus particulièrement toutes ces innovations dont on va parler, notamment les innovations technologiques. Donc voilà, je vais faire part de cette expérience pour dire ben voilà, quel regard on peut porter comme être humain, mais aussi comme chrétien, sur cette innovation autour de nous, sachant qu'effectivement, on peut avoir des partis pris très différents, hein, soit s'en inquiéter, soit au contraire avoir justement ce parti pris de curiosité et de bienveillance pour voir la place qu'on peut occuper dans ce monde-là.
Alors, vous allez intervenir sur un thème qui s'appelle « Une histoire à inventer, à bâtir ensemble ». On y reviendra peut-être après. Est-ce que vous pouvez nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit peu plus le magazine Pèlerin ? Voilà, depuis quand existe-t-il ? Quelle est sa ligne, peut-être, éditoriale ?
Oui.
Qui appartient donc au groupe Bayard, et puis qui sont ses lecteurs, peut-être aussi ?
Voilà, donc Pèlerin, effectivement, comme vous l'avez dit, le principal hebdomadaire chrétien, puisque nous avons donc 160 000 abonnés et acheteurs aussi, on peut le trouver chez les marchands de journaux. Pèlerin, c'est un journal qui existe, qui est ancien, puisqu'il existe depuis 1873, donc c'est aussi un des plus anciens journaux français. Voilà, écoutez, donc c'est un hebdomadaire qui, à la fois toutes les semaines, repose un peu sur deux pieds. C'est à la fois un regard chrétien sur l'actualité, voilà, pour comprendre et éclairer l'actualité, éclairer et comprendre le monde, et aussi toute une partie magazine pour accompagner nos lecteurs dans toutes les dimensions de leur vie personnelle, spirituelle, familiale, professionnelle, c'est les engagements aussi, les loisirs, la culture, la télévision. Voilà, c'est un journal très très généraliste, avec ce petit cette tonalité, vous parliez de ligne éditoriale, voilà, je pense que ce qui nous caractérise et ce qui caractérise aussi nos lecteurs, c'est ce regard bienveillant et plein d'espérance sur le monde. Alors, réaliste, hein, on est lucide, c'est pas un journal de bisounours fait pour des bisounours, mais enfin, avec ce parti pris, qui pour moi est un parti pris aussi de résistance spirituelle, d'avoir ce regard bienveillant sur le monde, voilà, pour y prendre aussi notre part et en faire un monde encore meilleur.
Alors, de fait, votre intervention, l'intitulée, c'est « Ouvrir les yeux autour de soi sur les multiples initiatives qui jaillissent dans la société civile et sources d'optimisme, l'avenir est plein de promesses, etc. » J'ai relevé quelques-unes des unes de votre journal de ces dernières semaines. En mai, il y avait une couverture « Plus belle la vie avec la philosophie ». Une autre aussi qui dit peut-être l'intention de votre journal ou sa ligne éditoriale à l'occasion des présidentielles, une France divisée n'est pas une fatalité. Et puis, un peu plus tôt, Armel Le Cléac, je ne sais pas exactement si c'est comme ça qu'on prononce.
Le marin, oui.
Voilà, le marin qui a été vainqueur du Vendée Globe. Il faut croire en ses rêves. Par exemple, si vous deviez préciser l'intention qui était celle de cette couverture, une France divisée n'est pas une fatalité au moment des présidentielles, quelle est... en quoi ça rejoint peut-être la thématique de votre intervention ?
Alors effectivement, vous avez raison, on avait réfléchi sur cette une du journal, parce qu'on avait constaté qu'effectivement, à l'occasion des présidentielles, il y a des fractures quand même très profondes qui se sont fait jour au moment de la présidentielle. Donc voilà, il ne s'agissait pas de les nier, il s'agissait à la fois de les regarder en face, mais pas juste de s'arrêter là pour s'en lamenter ou juste les constater, mais aussi, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'effectivement, notre conviction très forte à Pèlerin comme journal chrétien, c'est qu'effectivement, cette fracture n'est pas une fatalité. Donc ça rejoint effectivement l'intervention que je vais faire, parce qu'effectivement, c'est un choix de se dire qu'au cœur des difficultés les plus fortes, au cœur des innovations les plus extraordinaires ou peut-être les plus inquiétantes, voilà, quelle est la place qu'on peut prendre et comment en faire éventuellement quelque chose de bon pour l'homme.
D'accord, et juste sur cette question de la division de la société française, pour vous, parce que ça, de fait, on le lit en beaucoup d'endroits, et puis le second tour de la présidentielle l'a bien montré, qu'est-ce qu'il y aurait comme source d'espérance et d'optimisme qui ne serait pas bisounours, justement, quant à la possibilité de la société française de ne pas être si divisée que cela ?
Alors, nous, notre conviction sur cette question, elle vient de tout ce qu'on a fait au fil des années et au fil des mois et au fil des semaines précédentes. C'est-à-dire que chaque semaine, dans Pèlerin, quand on cherche des gens, des associations, des initiatives, des communautés locales qui, sur le terrain, prennent des initiatives justement pour de liens sociaux, pour donner la parole à tout le monde, on n'a jamais, au fil des semaines, on n'a jamais aucun problème pour trouver ces initiatives de terrain. Donc effectivement, la conviction qu'on s'est donnée, c'est qu'à la fois, on est lié à un président de la République, forcément, c'est lui qui va donner la grande direction, mais un président, il ne peut rien tout seul. Et un président, il doit aussi à la fois s'appuyer, mais aussi encourager toutes ces initiatives locales qui tissent le lien social, qui innovent, qui font preuve de solidarité. Donc nous, notre optimisme, il est ancré à partir de notre expérience, parce que ces initiatives, elles ne sont pas toujours connues, on n'en parle pas toujours. Enfin, je pense que Radio Présence fait partie de ces médias qui en parlent, justement. Elles existent, donc il suffit aussi d'en parler et de leur donner la parole.
Voilà, donc la principale source pour vous d'optimisme et pour votre journal, et ce sera l'objet de votre intervention, c'est justement la vitalité de la société civile en France ?
Absolument, c'est une des principales sources d'espérance, c'est-à-dire que l'espérance, c'est à la fois, hein, vous dites Saint-Paul, c'est espérer contre toute espérance, hein, donc parfois, on a des raisons de désespérer, voilà. Donc l'espérance, c'est à la fois un parti pris fort, Voilà, c'est un choix, je pense, un choix intellectuel, un choix spirituel aussi, mais c'est un choix qui s'ancre, qu'on peut ancrer de façon raisonnable, parce qu'on peut citer des exemples et on peut citer des choses dans notre vie de tous les jours autour de nous qui justifient et qui rendent raisonnable cette espérance.
Eh ben merci beaucoup Anne Ponce, on va faire une première pause musicale, à moins que Jean-Marc Guéraud, vous avez une réaction sur ce que vient de dire Anne Ponce.
Je trouve très, très juste cette approche de l'espérance, parce qu'en perspective chrétienne, l'espérance s'appuie sur tout ce que nous voyons de positif qui est en train de se réaliser, mais elle va beaucoup plus loin, parce qu'en même temps, elle traverse tout ce qui pourrait nous faire douter, tout ce qui pourrait être considéré comme puissance adverse. Et l'espérance aussi, elle les traverse, c'est la condition chrétienne, elle est aussi espérée contre toute espérance.
Voilà, les universités chrétiennes d'été de Castanet, on va faire une première pause musicale, je rappelle qu'elle commence demain, jeudi, donc 29 juin, rendez-vous à 14h30 à la Maison de la Fraternité à Castanet-Tolosan. Merci beaucoup Anne Ponce d'être intervenue par téléphone, on fait une première pause et on vous retrouve tout de suite après, Jean-Marc Guéraud, avec d'autres invités.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, donc sur l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan, donc qui commence demain, qui fête son 10e anniversaire, et cette année donc sur le thème Construire l'avenir dès maintenant. Dans cette deuxième partie, on va mettre l'accent sur deux autres réalités et puis deux autres intervenants. Je le disais avant cette pause musicale, Vincent Grégoire Delory, qui est à la tête, donc qui est directeur de l'École supérieure d'éthique et de sciences et qui va nous parler biotechnologie. D'ailleurs, le titre de son intervention, ce sera Le vivant 3.0. Et puis, nous en rejoignons en plateau, Elisabeth et Raphaël Marcelon, qui sont fondateurs de la ferme Habitat Solidaire. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec vous. La ferme Habitat Solidaire, vous pouvez peut-être nous la présenter. Donc, c'est à Toulouse. Qu'est-ce que c'est que cette réalité, Raphaël Marcelon ?
Alors, quelques chalets, 6-7 chalets en bois, dans un écrin de verdure sur les hauteurs de Pejavide, donc dans Toulouse, qui permet d'accueillir des personnes en difficulté sans les déraciner, puisqu'on reste dans la ville. On accueille évidemment des personnes SDF, des familles roms, mais aussi des personnes comme tout le monde qui ont une petite difficulté dans la vie, un divorce qui fait qu'ils se retrouvent sans logement. Et on apprend à vivre ensemble en se rendant la vie plus belle. Voilà, ça c'est notre leitmotiv, c'est ça qui nous fait avancer, c'est que tout le monde est capable de se rendre la vie plus belle.
Voilà, c'est voilà. Pas rien comme aventure. Comment est-ce que ça vous est venu de créer un lieu d'accueil comme ça?
Alors, ce sont des idées qu'on a piquées un peu à tout le monde. C'est vrai que j'avais participé à la création de l'Arche en Pays Toulousain, donc j'avais rencontré Jean Vanier et toute l'équipe. Ça a permis de voir comment on construit une communauté, les avantages, les inconvénients. On rit, on pleure, c'est la vie. J'avais rencontré aussi Guy Gilbert. Donc j'ai mélangé un peu tout ça et ça fait une ferme pédagogique où d'abord quand on accueille une personne, on lui apprend d'abord à construire son chalet plutôt que de l'accueillir. Enfin, on est accueillant, on l'accueille, mais il n'y a pas de logement. Il faut qu'il apprenne à construire son logement, donc à construire son logement et après à prendre soin de son logement. Et après, quand il a pris soin de son logement, il peut prendre soin des animaux. Et quand il a pris soin des animaux, il peut prendre soin de lui. Et après, ben, il peut repartir et rebondir. Voilà, on est un tremplin.
D'accord, et vous existez depuis ?
Depuis 7 ans.
Depuis donc, 7 ans, voilà. Vous avez accueilli combien de personnes ?
Peut-être 70 personnes depuis le début, voilà, une dizaine de personnes.
Donc vous avez 70 chalets chez vous ?
Non.
Qu'est-ce alors, que voilà. Vous en faites on au en fur et à mesure ? Voilà. Une question périphérique.
On a 7 chalets, voilà. C'est un tremplin. Donc l'objectif est que quand la personne, quand on n'est plus utile pour la personne et la personne n'est plus utile pour nous, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se rendre la vie plus belle, c'est-à-dire qu'on a atteint une autonomie, eh ben, on demande à la personne de partir. Voilà. Donc on a 7 chalets, on accueille en moyenne entre 6 et 7 personnes en permanence. Tous les jours.
Et les gens restent combien de temps ? Les personnes restent combien de temps ?
Ça va de une journée où une personne a besoin de se mettre à l'abri, en sécurité, et pour après changer de logement, ça peut, Thierry, rester 3 ans. Voilà.
Elisabeth, oui. Vous intervenez donc dans le cadre de ces universités chrétiennes. On imagine que c'est un projet chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un projet chrétien quand on a une ferme Habitat Solidaire comme ça ?
Alors, moi je dirais mon rôle... D'abord, c'est que j'admire mon mari, donc voilà. Et c'est vrai que dans ma foi immense en Dieu, je suis un peu un garde-fou. Et en même temps, je sais qu'on est sur du roc. Et si les choses doivent se faire, elles vont se faire. Alors, je suis un garde-fou, peut-être parce que des fois, quand il va, Raphaël, passer beaucoup d'énergie à la ferme, c'est aussi lui dire « hop, 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 ne te prends pas pour Dieu ». On fait passer Dieu d'abord. Et puis, savoir qu'on est tout petit, voilà, mais qu'avec Dieu, on peut tout faire. Ça, c'est la confiance que je peux avoir.
Mais ce qui veut dire que donc, vous-même, vous êtes chrétien, mais ce n'est pas forcément un projet explicitement chrétien. Les gens qui viennent ne sont pas invités à une vie de prière ou à une...
Non, c'est pas... C'est un projet ouvert à tout le monde. Vraiment, c'est vraiment un accueil de tous. Et c'est vrai que c'est important que ce soit un lieu interreligieux, interculturel, de tout âge. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, la richesse de chacun. Alors, par exemple, on a des partenariats, donc avec Emmaüs qui vient. Donc voilà, c'est des personnes de tout milieu. Voilà. Mais il y a aussi des personnes, on a eu des personnes d'Ampalo qui sont venues, un petit groupe de personnes musulmanes aussi, qui viennent aussi à la journée pour se ressourcer. voilà, un lieu de ressourcement, hein, tout d'abord. Après, il y a des écoles qui viennent, le CLAE qui va venir entre midi et deux aussi. Voilà.
Voilà, on sait qu'il y a des. Enfin, il y en a pas assez de lieux comme ça en France. En tout cas, il y en a quelques-uns et il y en a peut-être de plus en plus, du moins on l'espère. On peut en citer, enfin, vous citiez l'Arche, mais il y a d'autres réalités. Je pense entre autres à certaines communautés religieuses comme Saint-Jean-Espérance, même si c'est peut-être un peu différent dans l'esprit. J'avais cru comprendre qu'il y avait aussi donc des personnes qui traversaient des moments difficiles, peut-être. Est-ce qu'il y a des personnes qui traversent ce qu'on appelle des burn-out ? Vous avez des gens comme ça qui traversent ce type de difficultés ou pas ?
Alors, burn-out, je connais bien parce que j'ai dû en passer 3 burn-out en étant à la ferme. Bon, alors je vais appeler ça rupture technique. Pour ceux qui ont fait des burn-out, c'était quand même un peu plus poussé. Moi, j'ai senti quand Elisabeth me disait « te prends pas pour Dieu », je pense que j'ai senti que là, il fallait que j'arrête. Donc moi, j'ai fait des ruptures techniques. On a accueilli des personnes qui ont fait des burn-out, des personnes qui ont été aussi dans des grandes dépressions. Donc c'est pour ça qu'on a sur le lieu une personne ressource qui est framboise, qui est une traumaticienne, qui avec des thérapies brèves arrive à remettre sur place les personnes. Et le lieu, le fait qu'il soit paisible, permet aussi, tout cet environnement permet à ce que la personne puisse s'apaiser et traverser ces épreuves. Voilà.
Qu'est-ce qui reconstruit fondamentalement dans un lieu comme ça, vous diriez, en fait, c'est...
Je pense essentiellement l'accueil de la personne. Quand elle est en dépression, elle a envie de se rejeter elle-même et les personnes naturellement la rejettent. Et là, on est accueillant. Par contre, on accepte qu'une personne soit souffrante. On accepte qu'une personne soit en dépression. Donc, on accepte l'état dans lequel elle est. Donc, et après, on a des outils. Ça peut passer par des outils de cohérence cardiaque qui permettent de respirer, d'apaiser la personne. Ça peut être aussi des moments de prière, si la personne le demande. On est un lieu, une communauté très ouverte pour des gens qui n'aiment pas spécialement, entre guillemets, les cathos ou les musulmans. Donc, par contre, un moment on passe beaucoup de temps à remercier aussi. La gratitude, c'est aussi un moyen qui pourrait être un moyen de prière dans des gens qui se disent religieux. Donc on passe par des moments où on remercie la personne d'aller mieux, on remercie la personne qui a aidé, et on s'apaise. Et essentiellement aussi, c'est les animaux. Quand vous n'allez pas bien, je mets la personne à côté du cheval, il fait 500 kilos, j'ai dit, tu sais, le cheval, là, il sent ton émotion. Voilà, et il va l'amplifier. Le cheval va amplifier l'émotion de la personne. Donc la personne va voir ce qu'elle a. Et donc on ne va pas nier qu'elle a peur, on ne va pas nier qu'elle est en grande tristesse, etc. Et on va essayer d'avancer petit à petit comme ça. Ce qu'a dit Elisabeth, ne te prends pas pour Dieu, ça c'est super important. On ne peut pas influencer les personnes. Et donc si la personne ne va pas bien, on accepte qu'on est impuissant à la remettre en état. Par contre, on peut l'accompagner. Et c'est elle qui va trouver les solutions avec un dialogue avec nous, voilà, en allant bien.
Voilà, Jean-Marc Guéraud, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction ? C'est peut-être presque fondamentalement chrétien comme manière de faire face à la souffrance. C'est comme ça aussi que le Christ...
Il y a une chose en tout cas que je trouve fondamentale dans ce que vous dites, et dans l'esprit de votre initiative. Vous avez dit « se rendre la vie plus belle » parce que c'est tellement facile de s'empoisonner la vie. Et on s'empoisonne souvent la vie quand chacun voit le monde à partir de lui-même. Et si on essayait un petit peu de sortir de soi et de comprendre les autres à partir d'eux-mêmes, et dans un premier temps, ça changerait beaucoup de choses.
À quoi vous pensez, par exemple ? Est-ce que vous avez un exemple ?
Je crois que justement les souffrances et souvent les souffrances accumulées ont tendance à faire que les gens se renferment sur eux-mêmes. C'est mortifère. Et que la meilleure des thérapies, si je puis dire, enfin ça va plus loin que les thérapies, la meilleure des thérapies, c'est de faire découvrir aux gens qu'ils se retrouveront eux-mêmes, non pas en tournant autour d'eux-mêmes, mais en passant par autre qu'eux. Et en faisant l'expérience, alors je trouve à travers les animaux, c'est intéressant parce que l'animal, a priori, il n'est pas très contrariant. Donc c'est une affaire, c'est une démarche qui peut être paisible d'entrée de jeu, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec une personne humaine où ça peut, suivant les tempéraments, ça peut être plus conflictuel. Mais en tout cas, cette démarche-là est salutaire.
Elisabeth Marcelon, vous avez une réaction ?
Je voulais rebondir par rapport à ce que vous dites, parce que c'est vrai que nous, dans notre parcours de vie, on a, comme tous, vécu des choses aussi difficiles. Et on a une petite, notre cinquième enfant qui est décédé à 15 mois. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, on a reçu beaucoup de grâce, malgré la douleur de la mort d'un enfant, de réaliser tout de suite qu'il y avait les autres aussi. Et que leur vie était tout aussi importante. Et ça, de le réaliser tout de suite, c'est une chance. Parce qu'après, on ne s'enferme pas dans sa dépression ou dans ce... tout de suite. Et ça, c'est... Moi, j'ai eu la grâce immense aussi de savoir qu'on portait le ciel en nous. Voilà, de la savoir encore plus proche.
Je dis souvent que vous savez, le meilleur service que vous pouvez rendre aux personnes, c'est de leur donner la capacité de donner, de les mettre eux-mêmes en situation de mission. C'est-à-dire que c'est pas leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est susciter en eux les ressources qui sont les leurs pour pouvoir être capables de faire du bien aux autres. Et c'est comme ça qu'ils pourront eux-mêmes se reconstruire.
Alors, on n'arrive pas à joindre Vincent Grégoire Delory, mais j'avais quand même encore une ou deux questions pour vous, Elisabeth et Raphaël Marcelon. Vous avez décrit en fait la manière dont la personne se reconstruisait. Comment vous décidez ensemble du moment où cette personne peut prendre son envol? C'est que justement, elle a pris des responsabilités à un moment dans votre association et puis elle se sent capable de voler de ses propres ailes. Comment ça se décide, ça?
Alors, il y a toujours un dialogue avec la personne accueillie, puisque par rapport aux psychiatres qui nous disent il faut être dans la juste distance, nous on est plutôt dans la juste proximité avec les personnes. Ça c'était pour les titiller, mais on essaye de voir, d'abord on vit avec les personnes, on n'est pas un hôpital ou un centre de soins, on sait qu'on ne peut pas les soigner. On sait, c'est eux qui vont se soigner, nous on ne peut que les accompagner. Donc d'abord, quand on accueille une personne, il y a une commission, de manière à ce qu'on décide ensemble. Alors c'est important de décider ensemble, ça veut dire qu'il n'y aura aucun moyen de pression de la personne qui est accueillie, parce qu'ils sont malins, pour faire pression sur une des personnes du groupe. Voilà. Donc là, ça nous protège un petit peu. Et puis ça permet aussi de prendre la meilleure décision.
Ça la protège elle-même aussi.
Ça la protège elle-même. C'est-à-dire que s'il y a... C'est vrai que ce n'est pas une personne qui décide. Et donc il y a une discussion tout autour. Voilà. Et puis la personne, donc, on lui dit que si elle est plus utile, c'est qu'elle a gagné l'autonomie. Donc c'est super, elle peut prendre un appartement ailleurs, alors après on continue à l'accompagner, c'est-à-dire qu'on se porte garant de l'appartement qu'elle va prendre à l'extérieur, on fait le lien avec aussi les employeurs, voilà. Et ce qu'on essaye de faire, c'est toujours d'aller vers l'avant, mais bon, on a eu des personnes qui n'ont pas progressé à la ferme, et on leur a demandé de partir parce qu'on n'était plus utile, elle voulait rien utiliser à la ferme, juste le gîte et le couvert. Et là, on leur a dit, c'est pas le projet de la ferme. Donc, on a rebasculé peut-être sur Emmaüs, rebasculé sur le C10, des centres d'hébergement qu'il y a autour, voilà, de manière à ce que la personne comprenne qu'elle laisse la place à quelqu'un qui en veut. Parce que quand je vous dis le dicton de la ferme, enfin, la base, c'est se rendre mutuellement la vie plus belle, et on dit que c'est à la portée de tout le monde, mais c'est une démarche active. Donc, si la personne n'est pas dans cette démarche active, on est bien forcé de constater, de lui dire, on va mettre en pause. C'est peut-être pas le moment. On a peut-être forcé les choses, etc. Donc voilà, on se sépare comme ça, en soignant toujours la sortie pour que la personne rebondisse sur une autre structure positivement.
Dernière question. On imagine que si vous avez répondu à l'invitation, c'est que le thème vous inspire. Construire l'avenir dès maintenant. Qu'est-ce que ça vous a inspiré quand vous avez lu ce titre? Et puis qu'est-ce que vous voudriez dire sur ce sujet, Elisabeth ou Raphaël?
Je pense que vraiment on discerne que ce lieu est un lieu de ressourcement, tout d'abord. Voilà.
Ma question était plus générale, c'est-à-dire qu'au début de l'émission, le frère Jean-Marc Guéraud expliquait que cette thématique voulait dire que pour lui, on serait dans un moment dans la société française un peu à la croisée des chemins. Alors vous me direz, il y a beaucoup de gens et à beaucoup d'époques on dit ça, hein. Mais en l'occurrence, que notre société, on va dire quoi, dans une forme de biotechnologie, une forme peut-être de rationalisation de l'homme ou matérialisation de la vie, fait que l'homme ou le vivant vivant et un peu en danger. Voilà, donc là, on trouve de multiples illustrations. Mmh. On aurait aimé avec Vincent Grégoire Delory, donc sur les biotechnologies, mais en tout cas avec vous, on voit que c'est des gens qui sont chahutés par la vie et parfois par le monde moderne et qui se retrouvent, on va dire, avoir du mal et peut-être... comment vous réagiriez ? Vous avez l'impression, vous, à votre échelle, votre niveau, avec les gens que vous fréquentez, que oui, il y a comme une tension comme ça dans la société française, il faut choisir le bon rail ou le bon côté ?
Moi, je pense qu'il faut innover tous les jours. La société avance, on évolue, on accueille des migrants, on va avoir des changements de température. force est constater qu'on est obligé d'être innovant. Et puis, on a encore trop de gens à la rue, donc c'est qu'il y a un problème. Et prenant le temps de trouver des solutions innovantes. Donc oui, il faut construire maintenant pour demain, c'est-à-dire qu'il faut peut-être bouleverser, bousculer les lois, des fois, pour être innovant, pour dire comment on fait pour accueillir telle personne, on n'est pas aux normes. Nous, on a commencé la ferme, on n'avait pas des autorisations pour construire, on a demandé à des SDF de venir squatter chez nous. On s'est fait squatter, on a commencé comme ça, c'était totalement hors la loi. Maintenant tout a été régularisé, mais on était obligé au début d'innover parce qu'on avait plein de gens qui utilisaient la loi pour nous mettre des bâtons dans les roues. On est dans un quartier très chic quand même, Pauvreville, on nous a dit qu'accepter des SDF à Pauvreville, on allait salir un peu le quartier. Voilà, maintenant tout est rentré dans l'ordre, les voisins sont compréhensifs, ça nous a coûté quelques procès, et oui, il faut innover. Et il faut innover, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier qu'il y a un problème aujourd'hui, il y a trop de gens à la rue, il y a des richesses qui sont mal réparties, et donc il faut peut-être bousculer les lois pour un peu changer les choses, oui. Donc il faut...
Oui, et puis ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que vous redonnez des perspectives aux personnes, c'est-à-dire on croit à la vie quand on croit à l'avenir, et que cet avenir est désirable. Et or, il n'y a rien de plus terrible pour quelqu'un que de ne plus croire à l'avenir. Mmh. Et en particulier, la question du chômage, de ce point de vue, est dramatique. Mmh.
Voilà, en tout cas, c'est vrai que ça aide à espérer une initiative comme ça. Cette ferme Habitat Solidaire à Toulouse, Dieu sait s'il y a cette antenne. Pendant tout l'hiver, par exemple, on a alerté sur la